Mariam.
Fatoumata.
Chérine.
Amira.
Oumia.
Donc, je m'appelle Rezo Kiyounès, je suis chargé de médiation et de relations avec le public à l'Institut des cultures de l'islam.
Pas dans cette position-là, attends, fais-moi une position. Je suis pas d'accord.
Non, donc je suis chargé de médiation et de relations avec le public à l'Institut des cultures de l'islam. Donc, qui est déjà venu? Tu es déjà venu ou pas?
Je suis passé devant.
Tu es passé devant, tu n'es jamais rentré. Qu'est-ce qui t'a... C'était quoi le frein pour que tu n'entres pas? Qu'est-ce qui t'a...
Je sais pas, moi je savais pas c'était quoi.
Tu savais pas ce que c'était, d'accord.
Enfin, je savais que c'était un studio de l'islam, mais enfin, je vois pas, enfin, je sais pas pourquoi je rentrerai, quoi.
D'accord. Est-ce que tu savais que c'était gratuit ou pas du tout?
Ouais.
Tu savais que c'était gratuit?
Oui. Enfin, je sais pas à quoi c'est, en fait.
Très bien. Bah, justement, en fait, l'islam, donc, c'est un établissement culturel de la ville de Paris, donc, qui est ouvert à tous, à tous les publics. Il y a trop de paparazzi, vraiment. Donc, c'est un établissement culturel qui est ouvert au public. Donc, il y a toujours une exposition d'art contemporain. Et autour de cette exposition, il y a une programmation culturelle avec des débats, des projections, des ateliers, des rencontres littéraires. Et donc, on fait également des visites guidées. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour le projet global. Donc, le lieu, il y a une partie culturelle, c'est celle où on est actuellement, qui est dans le hall et au deuxième étage. Il y a une partie cultuelle, c'est-à-dire une salle de prière, qui est ouverte aux horaires de prière et qui est gérée par une association culturelle, c'est-à-dire une association privée affiliée à la mosquée de Paris. Donc c'est eux qui gèrent leur ouverture, leur fermeture, etc. Donc voilà pour la partie culturelle. Mais sinon, on peut commencer par l'exposition. Tu as déjà fait une exposition d'art contemporain ou pas du tout? Jamais. Très bien, on va en faire une. On va commencer. Bon, bah, très bien, possible. On va vous faire participer. Là, bon. Qu'est-ce que tu vois sur ce tableau?
Des gens dans le désert.
Des gens dans le désert, exactement. Est-ce que c'est de notre époque?
Non.
Pas du tout. Donc, tu peux me décrire un peu les éléments que tu vois?
Des chameaux.
Exactement.
Ça, c'est une grenade, ça?
C'est un obus, ouais.
Ah. Il y a une reine, je crois, dans le chameau.
Une reine?
Là.
Ok.
Une dame.
Une dame, exactement, dans le chameau, d'accord.
Il y a des gens assis accroupis. Il y a la mer derrière?
Non, c'est une oasis.
Ah. Ils font un pique-nique?
Et ça, c'est une caravane.
Ah.
Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la caravane? Donc, la caravane, elle pouvait servir à faire du commerce généralement, aller chercher par exemple des épices, de l'or, des tissus qu'elle revendait. Donc, c'est quelque chose de très riche. Donc, on voit donc cette caravane qui fait une pause et on voit qu'il y a des armes dans cette caravane-là. Il y a des gens armés. Donc, on voit un bouclier, on voit une lance et à côté de ça, tu as remarqué quelque chose qui est l'obus. Donc, est-ce que tu...
À cette époque, ça n'existait pas.
Exactement. C'est un anachronisme, exactement. C'est-à-dire un objet qui n'est pas dans sa situation temporelle. C'est-à-dire que cet objet-là, en vérité, n'existe pas. On va reprendre le tableau original. Donc, voilà. Donc ça, c'est le tableau original, c'est une caravane algérienne, donc c'est le titre de l'œuvre de Francisco Peluso, donc qui est né en 1836 et qui est mort en 1916. Donc ça a un peu plus de 100 ans. Donc on voit dans le tableau original qu'il n'y a pas la présence de cet obus-là. D'accord, c'est un obus qui a été rajouté spécialement par l'artiste qui s'appelle Narmin Hammam, donc qui est une artiste égyptienne. Donc, elle a pris en fait l'obus qu'elle a découpé dans un journal et en fait dans lequel elle l'a collé sur l'image et elle l'a repeint pour lui donner les mêmes tons que le fond arrière. Comme ça, il rentre parfaitement dans le décor.
Là, il est collé là?
Non, il n'est pas collé, mais c'est un photomontage.
Ah, d'accord.
Le original. La bretelle, comme elle l'a collée et ensuite elle a repeint dessus, il se retrouve dans les mêmes tons que l'œuvre originale. D'accord. Donc on voit la même chose ici.
Il y a un militaire qui arrête un monsieur.
Exactement.
Et il y a des montagnes.
Exactement. Est-ce que c'est la même époque ?
Non.
Qu'est-ce qui n'est pas la même époque ?
Bah, le militaire.
Exactement, le militaire. Et le personnage également.
Ah, le personnage aussi ?
Il m'a l'air de porter des baskets.
Ah ouais.
Exactement, il porte des baskets. Donc voilà, une autre œuvre. Donc c'est une œuvre de Alexis Auguste Delahaye, donc qui est de 1867. Et on voit bien que dans la vraie œuvre, il n'y a pas la présence du militaire. Donc c'est encore un objet anachronique. Donc en fait, Nermina Ram, l'artiste qui a fait ce travail-là, elle a fait plusieurs allers-retours entre l'Égypte et Paris pendant les révolutions en Égypte. Donc elle constatait une chose, c'est que l'image que elle, les choses qu'elle vivait là-bas et les représentations qu'elle avait des choses étaient différentes de ce que les médias donnaient ici en France. Donc il y avait un décalage entre ce qu'elle vivait et ce que les médias racontaient. D'accord ? Donc c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Comment ça, qu'est-ce que ça veut dire ?
Elle a pris ces objets-là, elle les a collés, ces objets anachroniques, elle les a collés sur ces tables orientalistes. Tu sais ce que c'est que l'orientalisme ou pas du tout ?
Non.
Alors, l'orientalisme, c'est un mouvement, donc ce n'est pas un courant comme l'impressionnisme, etc. C'est une fascination, en fait, des Occidentaux pour l'Orient. Et généralement, c'est une fascination qu'on voit d'ailleurs dans les films, on voit...
Occident, c'est ici,
exactement. Pour l'Orient. Et comment ça se manifeste ? Ça se manifeste, par exemple, les Arabes, ils sont sur des chameaux, on va représenter les mille et une nuits, on va représenter les danseuses du ventre, etc. Donc c'est ça, l'orientalisme. Donc c'est une vision un peu du joli, de l'Orient joli. C'est pas une... On les limite vraiment à ça. Tu vois ce que je veux dire ? On va pas montrer le dynamisme qu'il y a actuellement, etc. Et on va dire que, en ce qui concerne la France, l'orientalisme s'est terminé en 1962. Et 62, c'est l'indépendance de l'Algérie. Donc cette fascination pour l'Orient, en tout cas en France, elle s'est arrêtée à peu près à cette période-là.
Est-ce que tu as l'impression que les Français ils sont toujours fascinés par le monde arabe ou le monde musulman aujourd'hui ou pas ?
Non.
Pourquoi ?
Bah, parce qu'ils disent qu'on est des terroristes.
Et donc là, tu vois, qu'est-ce que ça t'inspire, ça ? Parce que ça renvoie directement au terrorisme.
Ouais, ah bah, ça... c'est... En fait, je crois que l'artiste, elle a fait ça pour montrer, les Arabes avant et les Arabes maintenant. C'est ça ?
Alors, donc qu'est-ce qu'on voit ? En fait, elle montre en fait surtout qu'il y a une manipulation de l'image. Du coup, en fait, le terme Huitico, qui est le titre de l'œuvre, donc là c'est Huitico, cowboy et indigène. Donc Huitico, c'est un terme amérindien.
C'est les Indiens d'Amérique.
Donc un terme amérindien qui a été utilisé par un sociologue, donc pour désigner en fait les manipulations des populations en général. Donc voilà. Donc elle parle elle traite clairement de manipulation. Donc vu qu'il y a un décalage entre la réalité, ce qu'elle voyait et ce que les médias disaient, du coup elle dit que voilà, c'est une manipulation.
Ça te parle ça, la manipulation des images, et ça t'évoque quoi d'autre ?
Je sais pas. C'était quoi ta question ?
Younes était en train de nous expliquer un peu ces deux tableaux. Tu vois des anciens paysages dans le monde arabe, a priori, l'Orient, avec des trucs super actuels que l'artiste elle a rajouté. Donc là, tu vois un tableau avec un obus, et là, tu vois un tableau avec un militaire qui arrête, mais qui ressemble un peu à un taliban, un touareg. Et Younes nous expliquait que tout le principe pour l'artiste, c'est de montrer comment on manipule l'image du monde arabe et de l'Orient, avec Avant, on trouvait que c'était beau, ancien, il y avait des chameaux, tout ça. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça l'image qu'on a. Et ce que je te demandais, Mariam, c'est qu'est-ce que ça te dit, enfin, quand on parle de manipulation d'image, qu'est-ce que ça t'évoque? Par les médias, notamment, par les journaux, la presse.
Maintenant, là?
Oui.
Ben, par exemple, la Palestine et l'Israël. Genre, ils disent que c'est les Palestiniens, genre, qui agressent l'Israël, alors que c'est l'Israël qui agresse la Palestine. C'est ça?
C'est en tout cas un conflit dans lequel, des deux côtés, il y a. Enfin, ils utilisent les images à leur profit.
Ouais.
Après, c'est l'opinion de chacun de penser que c'est l'un ou l'autre qui est manipulé. Ouais. Dans le monde arabe, effectivement, on accuse les Israéliens de ce genre de manipulation. Mais bon, bah, c'est pas le sujet. Je te laisse continuer, Younes.
D'accord, sur les arts plutôt.
Est-ce que tu peux me dire quels sont les éléments qui ne sont pas à leur place?
Les trois militaires là.
D'accord. Donc le fait des militaires de quel pays, à ton avis?
D'Amérique.
D'accord.
C'est pas des militaires américains, en effet. On le voit d'abord aux couleurs du treillis, puis à l'arme qui est un M16. Donc ça peut être des armes, enfin des militaires américains. Ça peut ressembler à des images qu'on a pu voir en Irak, par exemple. Mm. Donc notamment à Bassora. Et donc sur le tableau original, une seconde. Donc voilà. Donc le tableau original de Jeanne Fromentin, donc audience chez le calife. On voit que la scène est différente. Donc, l'intrusion de ces militaires dans cette œuvre en fait fait écho aussi aux interventions aussi actuelles militaires.
Dans des maisons, des civils.
Actuellement, oui. Même si là, c'est pas la maison d'un civil, si on connaît le contexte.
Ah.
La maison d'un civil, ça ressemble plutôt à ça. Là, c'est chez le calife. On voit bien qu'elle est beaucoup plus grande et plus. D'accord. Continue.
Le calife, c'est le chef, quoi.
Ouais.
Alors. Donc ça, c'est une série qui s'appelle Nil de Shadi Gadrian. Donc Shadi Gadrian, elle est iranienne. Donc elle a connu, je sais pas si vous savez, qu'il y a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak. Donc toute une jeunesse a vécu en fait avec ce conflit-là, dont elle. Donc c'est une artiste mondialement connue. Et donc là, elle nous montre en fait comment la guerre, elle s'immisce dans la vie quotidienne. Comment la guerre, elle rentre dans la vie quotidienne. Donc par ça, donc la vie quotidienne, c'est beaucoup de choses. Donc là, qu'est-ce qu'on voit
Un aspirateur,
mais qu'est-ce qu'il y a de particulier?
Il a un sac de militaire.
Exactement.
En guise de corps de l'aspirateur, on a un sac militaire. On continue. Donc qu'est-ce que c'est que ça?
Une ceinture de militaire.
Donc quoi, c'est quoi?
Dans une machine à laver.
Exactement. Donc on a une ceinture et au fond...
Ouais. Ok, de la ceinture.
Du linge blanc.
Enfin. Du linge blanc. Est-ce qu'il est épais? Est-ce qu'il est fin?
Non, c'est un rideau.
Blanc, fin.
Et à côté de ça, on a une ceinture qui est plutôt épaisse, couleur kaki, etc. Ouais. Donc on est beaucoup sur les contrastes.
Mm-hmm.
On continue. Ici.
Une table de thé.
Ouais,
avec de l'alcool derrière. Enfin, un alcool, enfin, une boisson de militaire, non, une gourde.
Une gourde, exactement. C'est pas de l'alcool, c'est une gourde.
C'est une gourde. Donc ce service de thé là, service à thé, pardon. Est-ce que c'est dans une classe moyenne, pauvre,
non,
bourgeoise?
Riche, bourgeoise.
Exactement.
À quoi on le voit?
C'est blanc et doré.
Oui, il y a le doré, puis le service
la
qui
cuillère
est complet, une cuillère en or,
un service complet pour juste pour boire du thé. Et au milieu de ce service à thé très raffiné, on a une gourde militaire. Donc, ça, encore une fois, ça envoie beaucoup de contraste. On a un objet qui est dur, c'est la gourde militaire, qui est solide. Et quelque chose de très très fragile qui est le service à terre raffiné, doré, donc avec plein de petits détails, et par opposition à la gourde Il n'y a vraiment pas d'État, c'est un objet militaire, c'est un ustensile, c'est quelque chose qui est fait pour être efficace.
Là, il y a un panier de fruits avec une grenade.
De fruits ?
Non, une grenade de l'arme.
Je t'ai envoyé un jeu de mots sur la grenade, justement, le fruit et la grenade, l'arbre. Ça, c'est bien. Donc, c'est cette série-là qui a donné son nom à l'œuvre, qui s'appelle Chercher les gens. J'ai pas pu faire
les deux. Là, c'est des cigarettes. Avec, à la place d'une cigarette, il y a une balle.
D'accord.
C'est pour dire que la cigarette, ça tue ?
Non. Non, c'est pas un slogan publicitaire. Non, c'est pas un slogan publicitaire. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici ?
Un sac à main de fille.
Ouais.
Avec. Comment on dit, la ceinture avec des balles là, ouais. C'est ça, non?
Ouais, un chargeur de balles.
Ouais, un chargeur de mitrailleuse. Là, il y a un foulard accroché, et à côté, il y a un casque militaire accroché aussi.
Qu'est-ce que ça peut représenter? Qu'est-ce que ça peut symboliser, le casque militaire et le foulard?
Ça veut dire qu'une dame, elle a un mari militaire.
Si tu réfléchis à toute la série qui est sur en gros, comment la guerre elle rentre dans ta vie au jour le jour, est-ce que ça fait. Ça t'évoque quoi?
Ça t'évoque quoi, Amira?
À qui appartient le foulard?
À une dame.
Le casque.
À un homme.
Il y a un premier contraste. Si on parle des matières, le casque, il est fait en quoi ?
En fer.
Ah, bien sûr. Est-ce qu'il est chaud, il est froid ?
Il est froid.
À côté, qu'est-ce qu'on a ?
Un foulard en soie.
Exactement. C'est chaud, c'est
chaud.
Il y a beaucoup de propositions. Il y a aussi un contraste de couleurs. Il y en a un qui est très coloré. Qui est très coloré, c'est plutôt le foulard. Et un qui est une couleur très militaire. Donc, on est beaucoup sur les oppositions.
Des chaussures, des escarpins et des bottes militaires à côté.
Vous pouvez dire un peu les contrastes, qu'il y a la différence?
Les chaussures, elles sont rouge sang et sur les bottes, il y a du sang.
Exactement, il y a un élément qui renvoie sur les bottes, c'est exactement ça. Donc on a des chaussures neuves, donc avec une couleur rouge plutôt, couleur de passion, d'amour. Et là, c'est une tache de sang, concrètement, qui renvoie plutôt à de la violence.
Exactement.
Très bien. L'artiste, en fait, c'est Tania Abjuka. On a aussi notre artiste qui s'appelle Tania Abjuka. Donc, c'est une artiste qui s'est intéressée, en fait, aux loisirs des Palestiniens. Donc, elle a été voir les Palestiniens avec une autre démarche que photographier toujours les mêmes choses, c'est-à-dire les massacres, l'occupation, etc., les martyrs, etc. Elle s'est placée dans une position où elle s'est intéressée exclusivement aux loisirs. Comment on s'amuse, comment on passe le temps quand on est... occupé quand on est en situation de guerre. Et du coup, il en résulte beaucoup de choses. Donc on voit, c'est beaucoup avec sous forme d'humour. Hein. Donc la salle de sport, le téléphérique, le manège. L'espace de jeu.
Le zoo.
Le zoo de Rafah. Ah, on n'en parle jamais en Palestine qu'il y a un zoo. Non.
La moto.
Exactement, la moto, le ciel, la mer. Donc il y a des éléments qui reviennent beaucoup, qui sont le ciel et la mer, parce que ce sont beaucoup des moyens pour les Palestiniens d'évasion, même si, à vrai dire, ils ne peuvent pas vraiment prendre la mer, mais c'est un endroit quand même qui est très apprécié. Parce que l'image qu'on voit souvent de la Palestine, qui fait partie du quotidien des Palestiniens, c'est la présence, c'est l'omniprésence du mur. D'accord ?
Tu vois le mur qui sépare Israël et Palestine, comme les gens là. Maintenant, l'occupation Israël occupe des territoires palestiniens et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bien et que les personnes ne puissent pas venir en Israël, ils ont construit un mur. Ils ont enfermé les Palestiniens.
Alors. Ça, c'est donc Tania Abjouka. Donc, alors, ce ne sont pas des photos réelles, c'est-à-dire ce sont des scènes posées, ce sont des scènes imaginées pour celle-ci. Donc, dans cette photo-là, on voit un homme qui fume une cigarette avec un bouton à l'avant de la voiture. Et en fait, c'est une scène qui était posée et qui a été prise à la fin du Ramadan, donc 40 jours avant l'Aïd. Donc, il a cherché en fait un bouton pour la préparation de l'Aïd. Donc voilà. Et on voit en fait que en fait c'est le sujet, c'est-à-dire la personne photographiée, qui a eu l'idée de faire cette scénographie comme ça. Lui, ça lui plaisait, ça l'amusait. Et du coup, il a proposé de faire ça. Et on voit que la photo, en fait, elle n'est pas très droite. Elle est légèrement oblique. Si vous reculez un peu, vous pouvez voir ça. Donc, à quoi ça sert de prendre une photo légèrement tordue ? Ça donne une impression de quoi ?
De...
C'est un peu difficile. En fait, c'est une impression de vitesse. En fait, je vous ai dit que les photos c'était posé, c'était pas quelque chose de naturel en fait. C'est pas une vie naturelle. C'est vraiment des situations posées. Et du coup, le fait de tordre légèrement, de prendre l'appareil légèrement en oblique, ça permet de donner une impression de vitesse qui n'est pas réelle.
Palestine, il y a tout ça. Moi, je ne savais pas qu'il y avait tout ça en Palestine. Alors là, je ne savais pas qu'il y avait un zoo en Palestine.
C'est toujours les mêmes images qu'on voit de la Palestine.
Hein ?
C'est toujours les mêmes images qu'on voit de la Palestine.
Ben, qu'en gros, ils souffrent.
Ben, ouais. Justement, on va la faire sur le même sujet.
Ah oui, je voulais
dire. Faut faire moins de bruit.
Bonjour. Excusez-moi.
On va regarder ce que tu as dit concernant les images de la Palestine.
Moi.
C'est pas Karima, c'est Raïda Sadek, donc une artiste palestinienne. Donc, tu avais dit quelque chose d'intéressant, c'est que la Palestine, on a toujours les mêmes images de la Palestine. On n'a pas tout ce que tu viens de voir, c'est-à-dire le zoo, le téléphérique, la plage, etc. Toutes ces activités de loisirs, on ne les voit pas quand on parle de Palestine. Et du coup, j'ai envie de vous montrer cette œuvre-là. Donc, qui s'appelle... Ou Wilmik Meril, donc de Raïda Sadeh. Donc, qu'est-ce qu'on y voit ?
Une dame allongée sur un lit, entourée de papiers journaux.
Elle est comment ? Elle est entourée, c'est-à-dire elle est bon, habillée en fait de papiers journaux. Oui. Elle est couverte. D'accord.
Ah, je dois continuer à dire ce que j'ai ?
Oui.
Ah,
oui,
parce que c'est. Prends ton temps. Que peut-être les femmes elles sont trop dans l'emballage que leur a mis les médias.
C'est pas faux. Donc c'est les femmes, mais aussi les Palestiniens, les artistes palestiniens, etc. Mm. Donc c'est surtout comment en fait les Palestiniens en fait on les a enfermés dans une
on les a figés dans une image. On a l'impression en fait que le papier journal, c'est du plâtre qui l'empêche de bouger. On ne dirait pas qu'elle puisse bouger librement. Donc on a l'impression que en fait, les médias, ils l'ont figé dans cette image-là. C'est comme si en fait, l'image des Palestiniens ne leur appartient plus. Il n'y a qu'à voir ce que a dit votre ami, c'est que je ne savais pas que les Palestiniens ils avaient aussi ce type de vie, ou qu'il y avait autant de choses en Palestine, ou qu'il y avait des loisirs, etc. Donc le fait d'avoir constamment les mêmes images de la Palestine, c'est ce que en fait dénonce cet artiste, c'est que les Palestiniens ne se définissent plus eux-mêmes, mais on a tendance, nous, à les définir bah, soit comme victimes, comme terroristes, comme occupés, comme, etc.
Est-ce que ça vous fait penser à d'autres gens qui sont enfermés dans l'image que créent les médias?
Les femmes voilées.
Pourquoi?
Genre, ils disent que quand t'es voilée, ça veut dire que t'as de la liberté, t'es soumise à ton mari et tout.
Et est-ce que vous entendez beaucoup de femmes voilées qui parlent à la télévision?
Non, à part pour des agressions ou des arrestations, non.
Mais donc on parle des femmes voilées à la télévision, mais sans que ce soit jamais elles qui en parlent?
Ouais.
Et est-ce que vous trouvez que c'est normal?
Non.
Je vais pas faire le tour de l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on voit?
Des couteaux.
D'accord.
Avec des lames belles.
Avec des belles lames, d'accord. Quelle forme elles ont ces lames?
Arrondies.
Arrondies, oui, des jolies formes arrondies.
De la fumée?
De la fumée, non. À quoi ça peut penser? Ça vous fait penser à ces motifs?
Ah ouais.
Donc des motifs de quoi ça?
Ouais, sur les deux plantes côtés. Ou...
Ah là, un animal.
Non, de plantes, exactement. Là. Des feuilles plutôt, je sais pas si tu vois.
Ouais, des feuilles. D'accord.
Donc, tout à l'heure on a parlé des oppositions, des choses qui s'opposent. Donc un couteau, ça sert à quoi?
À tuer.
À tuer, à couper, etc., à trancher, etc. Et une plante,
c'est la vie.
On est vraiment sur des oppositions entre la mort et la vie. Donc c'est ce que fait Zulikha Abou Abdallah avec cette série-là, comme avec la série des mirages. Comme ça. Donc on a parlé de la Palestine, donc comme je l'ai dit, donc il y a constamment la notion de l'enfermement qui est très présente. Donc on l'a vu avec le mur, mais là elle est symbolisée un peu différemment. Vous pouvez me dire un peu comment elle est symbolisée?
Le roi porte un gros poids.
Un poids, elle est surtout prisonnière.
Elle veut partir.
Exactement. Mais comment c'est? Qu'est-ce qui symbolise le fait qu'elle veut partir? Qu'est-ce qui montre à l'image qu'elle a envie de partir?
Son bagage à côté.
Son bagage, exactement, la porte ouverte aussi. Donc bravo. Ah, c'est exactement ça.
غريبي شلعها الهوى وصرت عنا أسرار ورحب هالمدى ولدين وضاعوا عجسر السدى كل من طوي شراعه ورحب هالمدى ولدين وضاعوا عجسر السدى تفارقنا بهدى والدنيا هدى فارقنا بهدى والدنيا هدى بخاطري صلي لي تسعد يا حبيبي لا انت حبيبي ولا ربينا سوا قصتنا الغريبة شلعها الهوى وصرت عنا غريب